Vous écoutez, on lit pour vous.
L'IA exerce illégalement la médecine. Un texte de Marco Lavertière et Catherine Régis paru le 14 avril 2026 dans la presse. Au Québec, seuls les professionnels qualifiés peuvent faire des gestes à portée diagnostique ou thérapeutique, rappellent les auteurs, pour qui il est temps de réagir face aux agents d'IA qui comparent à des charlatans. Les auteurs de ce texte sont Marco Lavertière, avocat, enseignant et chercheur associé en droit et politique de la santé, Université de Sherbrooke et Université de Montréal, et Catherine Régis, professeure titulaire, Faculté de droit de l'Université de Montréal, chaire Canada CIFAR en IA et droit de la personne, MILA, et chaire en diplomatie scientifique et gouvernance mondiale de l'IA. Sam Altman, PDG d'OpenAI, disait en juillet 2025 lors d'un événement organisé par la Réserve fédérale américaine que les capacités diagnostiques de l'intelligence artificielle, IA, surpassaient dorénavant celles des médecins. Il y a, en effet, des développements importants, voire spectaculaires, pour plusieurs applications d'IA spécialisées en santé. Toutefois, comme l'indiquent des études récentes, les applications destinées au grand public, tant pour la santé mentale que pour la santé physique, présentent des risques encore très mal maîtrisés. Et ce, c'est sans compter les événements tragiques rapportés régulièrement par les médias, dont des suicides, qui apparaissent liés à des interactions avec des agents conversationnels alimentés par l'IA, comme Gemini ou ChatGPT, en vue d'obtenir du soutien psychologique. Cette réalité soulève une question fondamentale. Qui devrait encadrer les applications destinées au grand public qui permettent d'obtenir des avis diagnostiques ou thérapeutiques? En principe, on sait que dès qu'il s'agit d'instruments médicaux, un processus d'homologation, comme celui qui relève de Santé Canada, est prévu avant que le produit puisse être mis en marché. Mais manifestement, pour les applications grand public, ce processus apparaît plutôt inopérant pour l'instant. On devrait alors pouvoir miser sur le Code des professions et les autres lois relatives à l'encadrement de la médecine et des diverses professions du secteur de la santé. Historiquement, de telles lois ont été adoptées pour protéger le public contre le charlatanisme en matière de santé et non pas pour accorder un privilège social ou économique à un groupe donné. Ces lois visent ainsi à garantir que seuls des professionnels qualifiés font des gestes à portée diagnostique ou thérapeutique. Bien qu'elles aient été conçues à une époque où l'on ne concevait le risque que sous l'angle d'interactions humaines, les règles établies sont relativement claires quant aux limites qu'il ne faut pas franchir, même pour les entreprises qui rendent les applications d'IA accessibles au public. Que signifie l'exercice illégal de la médecine en lien avec l'IA? Au Québec, la définition juridique du diagnostic est particulièrement large. Les tribunaux considèrent qu'il s'agit de toute démarche visant à identifier une maladie, un trouble ou un dysfonctionnement à partir de symptômes ou de méthodes scientifiques, y compris l'anticipation de malaise probable. La prescription, quant à elle, est comprise comme toute recommandation thérapeutique. En pratique, même en l'absence d'un diagnostic explicitement formulé, le simple fait de recommander un traitement peut suffire à conclure qu'un diagnostic a été posé. Les développeurs se rassurent en ajoutant des clauses de non-responsabilité ou des mises en garde affirmant que l'outil d'IA ne remplace pas une consultation avec un professionnel qualifié. Or, au Québec, la jurisprudence mentionne plutôt que de telles déclarations ne suffisent pas à écarter un constat d'exercice illégal. La définition des activités professionnelles réservées peut varier d'un pays ou d'une province à l'autre. Mais comme l'indique un texte paru récemment dans le Globe and Mail, les questions qui se posent au Québec en cette matière existent également ailleurs au Canada. Et le constat est le même, soit celui d'une forme d'inertie collective, d'autant plus que, contrairement à l'Union européenne et à d'autres pays plus avancés sur le plan législatif à ce sujet, nous ne disposons pas encore au Canada d'un cadre juridique global visant à encadrer et gérer le risque des développements liés à l'IA. Protéger le public sans compromettre l'innovation. Faut-il alors intenter des poursuites pour interdire les applications de santé fondées sur l'IA ou freiner leur essor? D'une part, si la finalité première des règles sur l'exercice illégal est la protection du public, il n'y a aucune raison de créer une zone d'exception spécifique pour les entreprises technologiques. Mais il faut aussi reconnaître que des outils d'IA hautement performants peuvent, dans certains contextes, améliorer l'accès aux soins et alléger la pression sur les systèmes de santé. Au Québec, à défaut de tester les règles déjà établies en matière d'exercice illégal des professions dans le cadre de poursuites contre les entreprises qui rendent disponibles des technologies à risque, nous avons l'occasion, avec l'exercice de modernisation du Code des professions qui est en cours, de réfléchir à ce que devrait être un encadrement propre à cette nouvelle réalité. Il s'agit là, d'ailleurs, d'une orientation clairement énoncée dans la politique gouvernementale sur les soins et services de première ligne qui vient tout juste d'être dévoilée. L'enjeu n'est donc pas de choisir entre innovation et protection, mais de sortir d'une certaine torpeur, de prendre la mesure des risques en cause et de mettre de l'avant une stratégie d'encadrement adaptée à cette nouvelle réalité. C'était « L'IA exerce illégalement la médecine », un texte de Marco Laverdière et Catherine Régis, paru le 14 avril 2026 dans La Presse.
La loi fédérale sur les crimes haineux ne criminalise pas le fait de citer la Bible. Un texte de Marissa Birny, paru le 16 avril 2026 dans Le Devoir. Plusieurs publications sur les réseaux sociaux affirment qu'une loi fédérale modifiant le code criminel pour lutter contre les crimes motivés par la haine a érigé en infraction le fait de citer la Bible. Selon les experts, en vertu de ce projet de loi, qui n'a pas encore été adopté, le fait de partager des passages de la Bible ne constituerait pas un discours haineux. L'allégation. Le Canada vient de criminaliser la Bible, a déclaré Terence K. Williams, humoriste conservateur et commentateur sur les réseaux sociaux, dans une publication sur Facebook en mars 2026. La publication de cet humoriste américain, qui a recueilli plus de 160 000 « j'aime », affirmait que les pasteurs canadiens et les chrétiens ordinaires risquaient des poursuites pour avoir exprimé leur foi. Dans une publication similaire, sur X, datant de mars 2026 et ayant recueilli environ 30 000 « j'aime », l'acteur américain Kevin Sorbo a affirmé que le Canada avait criminalisé la lecture de la Bible. Les deux publications comportaient une image de Mark Carney accompagnée du texte suivant. Le Canada vient de criminaliser la Bible. Le projet de loi C-9 a été adopté par les législateurs canadiens. Désormais, citer les Écritures sur le mariage, le péché ou le dessein de Dieu concernant la sexualité peut être poursuivi pour incitation délibérée à la haine. Cette affirmation, initialement diffusée par des conservateurs au Canada et aux États-Unis, s'est propagée au-delà de l'Amérique du Nord. Dans une vidéo TikTok publiée le 2 avril 2026, un chef religieux s'adresse à un événement intitulé « Jalingo Healing and Deliverance Crusade » dans la ville nigériane de Jalingo. Avez-vous entendu dire qu'une loi vient d'être adoptée au Canada? Demande l'homme à l'Assemblée. Toute citation des Écritures faisant référence à l'homme et à la femme, au mari et à la femme, devient désormais illégale et peut vous valoir des poursuites judiciaires, dit-il. Car cela signifie que vous faites preuve de discrimination envers les hommes qui épousent des hommes et les femmes qui épousent des femmes. Les faits. Le projet de loi du gouvernement fédéral sur les crimes haineux définirait pour la première fois la haine en droit pénal et érigerait en infraction pénale le fait de promouvoir délibérément la haine par l'utilisation de symboles haineux. Le projet de loi C-9 érigerait également en infraction le fait d'intimider ou d'empêcher quelqu'un d'entrer dans un édifice religieux ou culturel. Pour certains opposants à la loi, le problème réside dans un amendement que le Bloc québécois a négocié avec succès avec les libéraux. Cet amendement supprime du code criminel une exemption religieuse pour les discours haineux, considérés comme une expression, un argument ou une opinion de bonne foi fondée sur une croyance dans un texte religieux. Les libéraux affirment avoir répondu aux préoccupations suscitées par ce changement en précisant dans le texte de loi que les déclarations religieuses sur des questions d'intérêt public ne seront pas criminalisées tant qu'elles ne visent pas délibérément à promouvoir la haine contre un groupe identifiable. Les conservateurs et les groupes de défense des libertés civiles continuent de critiquer le projet de loi qui, selon eux, pourrait porter atteinte à la liberté de religion et restreindre le droit de manifester. Le projet de loi a été adopté en troisième lecture à la Chambre des communes le 25 mars et attend désormais l'approbation du Sénat avant d'entrer en vigueur. Richard Moon, professeur émérite à la Faculté de droit de l'Université de Windsor, a déclaré que la loi ne rendrait pas illégal le fait de partager des passages de la Bible en personne ou sur les réseaux sociaux. Il a précisé que ce qui serait considéré comme un discours haineux au sens du projet de loi devrait être de nature très extrême et soit dénigré, soit exprimer de la haine envers les membres d'un groupe spécifique. M. Moon a fait référence à une affaire de la Cour suprême du Canada qui a donné des exemples de ce qui pourrait être considéré comme un discours extrême. Ce discours comprend des descriptions des membres d'un groupe comme étant sous-humains ou bestiaux ou intrinsèquement violents ou dangereux pour les enfants, a-t-il affirmé. Qualifier l'homosexualité de péché, par exemple, ne répondrait pas aux critères d'un discours extrême, a indiqué M. Moon. Il en va de même pour le simple partage d'un passage de la Bible, même si certains l'interprètent comme encourageant la discrimination ou la haine envers un certain groupe. Le simple fait de faire référence à un texte biblique, compte tenu de la manière dont il est interprété différemment par différentes personnes, dans différents contextes, ne constituerait pas en soi un discours haineux, a-t-il déclaré. Howard Sapers, directeur général de l'Association canadienne des libertés civiles, a convenu que le simple fait de citer la Bible ne deviendrait pas un crime. Ce qui pourrait être criminalisé, c'est ce qui l'est déjà aujourd'hui, c'est-à-dire l'utilisation d'une citation dans le but délibéré de promouvoir la haine, en particulier contre un groupe identifiable, a-t-il déclaré. Un discours haineux reste un discours haineux, et un discours haineux reste un crime. Et on ne peut pas se cacher derrière une identité religieuse pour prétendre que ce n'est plus un crime. M. Moon a soutenu qu'il ne pensait pas que les groupes religieux devaient s'inquiéter du projet de loi C-9, même avec la suppression de la défense fondée sur l'exemption religieuse. Il a ajouté que les opinions religieuses conservatrices, ordinaires, sur le mariage, entre personnes du même sexe, où l'orientation sexuelle ne posait pas de problème au regard du projet de loi. Rien de tout cela ne serait contraire à l'interdiction des discours haineux prévue par le Code criminel, telle qu'elle a été interprétée par les tribunaux sans cette défense, a-t-il déclaré. Cependant, M. Sapers a déclaré que son association craignait que la suppression de l'exemption ne limite la liberté de religion et d'expression religieuse. Notre inquiétude concernant la suppression de cette exemption est qu'elle n'a pas été remplacée par quoi que ce soit pouvant être considérée comme une alternative adéquate, a-t-il affirmé. Il a ajouté que cela pourrait potentiellement conduire à la poursuite judiciaire d'une minorité religieuse dont la doctrine serait jugée comme atteignant le seuil du discours haineux. C'était « La loi fédérale sur les crimes haineux ne criminalise pas le fait de citer la Bible ». Un texte de Marissa Birny, paru le 16 avril 2026 dans Le Devoir.
Montréal doit être plus ferme dans sa lutte contre les punaises de lit, selon un rapport. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 13 mars 2026 dans Le Devoir. Quoi retenir? Entre 2014 et 2024, Montréal a enregistré 41 750 interventions contre les punaises de lit, malgré un manque de déclaration systématique des exterminations. Le comité logement de la Petite Patrie demande une régulation stricte incluant des amendes plus élevées et un registre des propriétaires négligents. Le champignon Bouveria bassiana, utilisé depuis 2020, offre une nouvelle méthode efficace mais coûteuse pour traiter les infestations. Malgré les efforts de la Ville de Montréal pour resserrer ses contrôles en matière de salubrité dans les dernières années, les punaises de lit continuent de proliférer, particulièrement dans les immeubles à logements multiples mal entretenus. Dans un rapport rendu public vendredi, le comité logement de la Petite Patrie réclame une application plus stricte des règlements de lutte contre les infestations, mais également la création d'un registre public des propriétaires négligents, ainsi que des actions pouvant aller jusqu'à l'expropriation dans les cas graves. Les données de la Ville de Montréal révèlent qu'entre 2014 et 2024, les entreprises de gestion parasitaire ont fait 41 750 interventions contre les punaises de lit sur le territoire. Il reste cependant difficile de mesurer la réelle ampleur du problème, car ce ne sont pas tous les exterminateurs qui déclarent leurs interventions. Sur le terrain, il ne fait pas de doute que les infestations sont en hausse après l'accalmie observée pendant la pandémie de COVID-19, affirme Mélanie Barry, organisatrice communautaire au comité logement de la Petite Patrie. en 2018, la Ville de Montréal avait adopté un plan d'action de lutte à l'insalubrité des logements pour renforcer ses mesures de contrôle en augmentant notamment le nombre d'inspections, mais le comité logement juge ces actions insuffisantes. Les punaises de lit ne sont pas seulement un enjeu de salubrité. Elles peuvent aussi avoir des effets majeurs sur la santé mentale des personnes qui sont touchées. L'élimination des punaises de lit requiert aussi l'intervention répétée d'exterminateurs. Or, la réalisation de traitements se bute à de nombreux obstacles sur le terrain. Concierge pendant 8 ans dans un immeuble de 55 logements de Rosemont-la-Petite-Patrie, Michel Jobin a dû coordonner des traitements à répétition dans le bâtiment. Son appartement a fini par être infesté aussi. C'était l'enfer. Ce n'était plus possible de dormir. J'ai dû jeter beaucoup de meubles, relate-t-il. Il y avait des problèmes de santé mentale et d'insalubrité dans certains appartements. En général, il y avait une bonne collaboration des locataires, mais c'est très difficile de faire participer les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Après des années de traitement, les problèmes ont fini par se régler. La ville a le pouvoir d'imposer des amendes aux propriétaires négligents, mais les sanctions sont rares et peu dissuasives. Engager des procédures menant à des amendes est extrêmement coûteux. Les montants ne sont pas suffisants pour que ce soit rentable pour la ville de donner une amende, explique Mme Barry. La ville va plutôt chercher à obtenir la collaboration des propriétaires, dit-elle. Registre des propriétaires négligents. Le comité logement estime que la Ville de Montréal devrait être plus stricte à l'égard des propriétaires délinquants et qu'elle devrait augmenter les amendes. L'organisme recommande la création d'un registre public des propriétaires négligents. Il va même jusqu'à suggérer à la Ville de retirer aux propriétaires récidivistes le droit de gestion de leur immeuble et de procéder à l'expropriation en cas de négligence grave. Il propose aussi un meilleur accompagnement des locataires en situation de vulnérabilité. De son côté, le gouvernement du Québec devrait reconnaître les punaises de lit comme une question de santé publique qui nécessite des interventions rapides, soutient l'organisme. Celui-ci presse également Ottawa d'obliger les gestionnaires parasitaires à signaler de façon systématique les infestations traitées. Un champignon efficace. Plusieurs méthodes sont employées pour tenter d'enrayer les infestations de punaises de lit, comme les pesticides, la congélation et le traitement à la vapeur. Mais un nouvel outil s'est ajouté à l'arsenal, le champignon Bovaeria bassiana. Autorisé depuis 2020 par Santé Canada pour la lutte aux punaises de lit, ce biopesticide est considéré comme non toxique pour les humains et les animaux domestiques. Lorsqu'elles entrent en contact avec les punaises, les spores du champignon colonisent l'intérieur de l'insecte qui meurt au bout de 3 à 5 jours. Vice-président d'extermination Gagné, Riyad Zouaïdia, n'utilise plus les pesticides conventionnels et préfère le Bovaeria bassiana pulvérisé sur les pieds des lits et le long des murs. Les meubles et les matelas sont pour leur part traités à la vapeur. Le champignon est très efficace et contaminera une punaise qui le touchera jusqu'à 3 mois après l'application du produit, souligne M. Zouaïdia. La faiblesse du champignon, c'est qu'il meurt au contact de l'eau, des insecticides et du savon, dit-il. Le traitement au Bovaeria bassiana est cependant beaucoup plus coûteux que celui misant sur les pesticides conventionnels. C'était « Montréal doit être plus ferme dans sa lutte contre les punaises de lit » selon un rapport, un texte de Jeanne Corriveau paru le 13 mars 2026 dans Le Devoir.
Recherche en santé. 4 tendances à surveiller. Un texte de Agence Science Presse, paru le 5 janvier 2026 dans Science Presse. L'actualité de la recherche en santé ne prend pas de pause, mais certaines percées récentes permettent d'identifier des tendances appelées à se poursuivre sur plusieurs années et à avoir des impacts durables. Un médicament pour plusieurs usages. Alors que des médicaments anti-obésité comme l'Ozempic et le Wegovy pourraient voir apparaître des versions génériques, de plus en plus d'études suggèrent qu'ils pourraient avoir des effets au-delà de la perte de poids. Certaines recherches explorent notamment leur potentiel dans le traitement des maux de tête, de l'alcoolisme ou encore de certaines maladies cardiovasculaires. Les chercheurs cherchent à mieux comprendre les mécanismes biologiques qui permettraient à un même médicament d'avoir des effets aussi variés. Des thérapies géniques personnalisées. Les avancées en thérapie génique, notamment grâce à la technologie CRISPR, continuent de susciter un grand intérêt. Un exemple marquant est celui d'un traitement conçu sur mesure pour un patient où une mutation spécifique est directement modifiée dans l'organisme. Si ce type d'approche s'avère reproductible, il pourrait ouvrir la voie à des traitements personnalisés pour un plus grand nombre de maladies. La poursuite des recherches en thérapie génique. Les recherches se poursuivent pour évaluer l'efficacité de ces technologies dans le traitement de diverses maladies, comme la maladie de Huntington, l'hypercholestérolémie, la surdité congénitale ou certains cancers. Toutefois, il demeure essentiel de distinguer les résultats préliminaires, souvent obtenus en laboratoire, de ceux qui pourraient mener à des applications cliniques concrètes. Les vaccins à ARN. Les vaccins à ARN continuent d'être étudiés pour leurs nombreuses applications potentielles. Ils présentent l'avantage d'être plus rapides à concevoir et à produire que les vaccins traditionnels, bien que des défis subsistent, notamment en ce qui concerne leur transport et leur stabilité. Des recherches sont en cours pour évaluer leur efficacité contre différentes maladies, comme la grippe saisonnière, et pour mieux comprendre leur potentiel à long terme. Certains travaux suggèrent également que ces technologies pourraient avoir des retombées économiques importantes si leur développement se poursuit. C'était « Recherche en santé », 4 tendances à surveiller, un texte de Agence Science Presse, paru le 5 janvier 2026 dans Science Presse.